Excusez. Bon. Petit troupeau. Hein? Si je vous dis Jean 13, 35, qu'est-ce que ça sonne à vos oreilles? Tu veux qu'elle dise plus fort? Sonia, dis-le fort. On peut tout paraphraser ça, là, hein? Mais l'important, c'est l'essence du verset. À tous, ceci, non, à ceci tous. Hein? À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tout l'évangile de Jean est un testament d'amour. Hein? Le mot amour revient souvent. D'ailleurs, notre verset clé, hein, Jean 3, 16, c'est là qu'on le prend. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde. Hein? Et Dieu aime. C'est vrai qu'on a un Dieu qui est juste. C'est vrai qu'on a un Dieu qui est trois fois saint. C'est vrai qu'on a un Dieu qui... Mais Dieu veut que tous viennent à la repentance, comme on a vu ce matin. Hein? Dieu veut que tous viennent à lui. Mais Dieu nous aime et il veut prendre place dans nos vies. Il veut nous habiter et il veut qu'une fois qu'il est en nous, qu'on aime aussi, comme il nous a aimés. Et c'est ça le verset qui nous amène. Dieu veut aimer à travers nous. Dieu aime les inconvertis. Mais qui peut les aimer là, pour montrer que Dieu les aime? C'est nous. Hein? On a ça. Dieu veut qu'on aime les gens qui nous entourent. Dieu veut qu'on aime dans l'assemblée. Et Dieu nous aime personnellement aussi. Et la façon dont il nous aime, moi, je donne un petit peu comme exemple. Dieu veut danser avec moi. Dans Sophonie, c'est dit que Dieu, il se réjouit quand il nous voit dans le ciel. Là, je fais la parenthèse. Il dit dans Sophonie qu'il se réjouit dans le ciel à voir qu'on appartient. Et les mots qui sont utilisés dans Sophonie, c'est... Il est des transports d'allégresse, il danse d'allégresse à voir son peuple. Et Dieu, quand il voit son peuple, qu'on lui appartient, il danse d'allégresse. Comme David dansait quand lorsqu'ils ont ramené l'arche. David dansait, puis hein, il a passé pour un beau crackpot, mais David dansait, il exprimait une joie. Et Dieu, dans Sophonie, nous exprime cette joie-là que quand il voit qu'on lui appartient, il danse d'allégresse. Il ne veut pas danser tout seul dans le ciel, il veut danser avec nous. Hein, l'image que je veux vous donner. Et quand on voit un couple qui danse, qui m'aime? Il ne veut pas être macho, là. Bon, c'est l'homme. Voulez que je fasse. Non, hein, c'est l'homme. Et qui initie le pas de la danse? C'est l'homme. Et comment la femme fait pour savoir où se diriger? Pardon? Elle suit, oui. Mais comment l'homme fait pour la diriger? Pardon? Ah, OK, c'est ça. Non, il n'est pas tout le temps dansant. Avance, recule, avance-toi pas, recule, avance-toi pas, recule. Ça, c'est pas comme ça que ça danse. Il dirige avec la main dans le dos et la femme vient sensible à la façon dont il peut la diriger. Et l'autre main, habituellement avec ses deux mains, il va diriger. Donc, la femme a à être sensible à la prise de l'homme, à la direction, pour que la danse, il ne se pile pas ses pieds, puis que la femme ne part pas d'un bord, puis lui de l'autre bord, et qu'il soit capable, pas mis ton casse à soi. Donc, pour qu'il soit capable d'aller dans le même sens et faire une harmonie, la femme suit la direction de l'homme. c'est la même chose avec Dieu. Dieu veut danser avec nous. Il veut nous montrer dans la danse qu'il nous aime et il veut nous faire cheminer, il veut nous faire grandir, il veut nous diriger et c'est sa façon, c'est en dansant avec nous. Je suis loin de la Bible, hein? Pas tant que ça. Qu'est-ce que je disais que la femme avait besoin pour que l'homme puisse la diriger et qu'il fasse un couple qui est en harmonie lorsqu'il danse? D'être sensible. Si elle dit, moi, je ne vais pas là, qu'est-ce qui se passe? OK? Si l'homme, il met une musique de valse, mais elle dit, moi, je lance un tango. C'est beau, le tango! Donc, la femme, pour avoir idée de faire des belles choses, une belle danse aussi, mais c'est pas en harmonie avec celui qui dirige. Voyez venir mon image de la vie chrétienne. Dieu m'aime, mais il veut lui-même initier le mouvement pour que je puisse aimer comme il veut que j'aime. Et c'est Dieu qui initie le mouvement. Et ce que j'ai, c'est à être sensible. Il faut que j'aille le dos sensible. Possiblement qu'on se parle un peu. Les oreilles sensibles, les yeux sensibles. Il faut que mes sens soient à l'écoute de Dieu. Comme la femme, lorsqu'elle danse, a besoin d'être à l'écoute pour faire un mouvement qui s'assemble uni puis c'est pris comme ça. Tellement qu'il y a des danses qu'on voit des fois, pas ceux qui écoutent, c'est pas cet anglais, so you can... Ouais, c'est ça. Et tu vois des pièces là-dedans, que le gars, il est là, la fille, elle part, elle se tire, mon ami, dans le vide, carrément les patins comme ça, pouf, lui, il te la repogne. Il faut qu'elle ait confiance qu'il va repogner. Comprenez-vous? Donc, il y a un élément de confiance. Il y a un élément que la femme a confiance dans l'homme, dans le mouvement qu'ils initient ensemble. Le même titre, on doit avoir confiance en Dieu. On doit s'abandonner. Elle s'abandonne. Elle espère qu'il va y avoir quelqu'un qui va repogner à l'autre bout, là. Elle s'abandonne. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire que la danse est un échec. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire que ma danse avec Dieu est un échec également. Je peux danser seul, comme les danses qu'on voit aujourd'hui. Là, on danse en rond 10-12, où on n'a pas besoin de danser l'un avec l'autre. Hein? Chacun danse sa propre danse. Et je peux danser comme ça aussi. Je n'ai pas de partenaire. Ou je peux changer de partenaire. Quand on voit cette émission-là, il se pratique pendant 2-3 jours pour offrir une prestation pour un soir. Mais juste avant le spectacle, il ne change pas de partenaire, là, parce que là, il va avoir des problèmes. Il faut qu'il aille pratiquer la même danse. Il faut qu'ils soient habitués ensemble. Si je reviens au sujet, on a été créés dans le but de glorifier Dieu. Et une des façons de glorifier Dieu, c'est d'aimer comme il m'a aimé. Plus je vais comprendre son amour pour moi, plus je vais lui faire confiance. Plus je vais facilement m'abandonner. Toutefois, il peut y avoir des obstacles à ce que ma danse avec Dieu ne fonctionne pas. L'amour de Dieu dans ma vie se manifeste comment? Envers qui? Qui? Envers les autres? Les autres. Définissons les autres. Frères, sœurs. N'as-tu des plus proches que ça? Ouais. L'amour de Dieu se manifeste dans ma vie de la façon dont je le laisse aimer. Ils sont-ils toujours aimables, ces gens-là? OK. L'idée que je veux amener, c'est qu'on a quelque chose qui est supposé nous faire connaître qu'on est différent des autres, par l'amour qu'on a les uns les autres. Ça, c'est l'idée que je veux amener. Cependant, quand je regarde dans mes yeux d'homme, je considère qu'il y a beaucoup d'obstacles et que je ne vois pas nécessairement toujours ça présent. Dans ma vie, soit avec les inconvertis, soit avec les miens, soit dans l'Église. L'amour de Dieu n'est pas toujours présent. Pourquoi? Et c'est là que ma présupposition, mon point de départ, c'est de dire, Dieu veut qu'on danse, qu'on soit en harmonie et qu'on l'aime comme il nous a aimés, sauf que le problème qui arrive en cours de route, c'est qu'on n'est pas capable de danser. On n'est pas capable d'aimer. Et on a un blocage à quelque part. Et d'après vous, quel pourrait être le blocage qui fait que j'ai de la misère à aimer les autres? Qu'est-ce qui arrive qui fait que je ne suis pas capable d'aimer? Pardon?
Quand?
Ouais, parce que vous répondez pour moi, je vais me sentir mal à l'aise. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable d'aimer? Qu'on a de la difficulté, qu'on n'est pas capable d'aimer comme Dieu m'aime? Oui, mon frère. On s'aime trop soi-même? OK. OK, je m'aime plus que j'aime les autres. OK, ça peut être, oui? Oui? Oui, Jacinthe? OK, je prends ça. Il y avait quelqu'un ici?
La peur?
Mais là, t'as une minute, là. Moi, il me semble que Dieu, dans nous autres, c'est pas de faire une différence. Parce que ce que tu me dis là, ça, c'est tout le monde, ça, qui peut avoir ça, là. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, avec Dieu qui est en moi, Dieu qui m'aime, je réalise que Dieu m'aime, je réalise qu'il m'habite, je réalise tout ce qu'il a fait. Puis là, j'arrive, puis je dis, j'ai peur de l'autre. Je laisse ça là pour l'instant. On va soulever des affaires. Oui? Ça, c'est une solution, de demander à Dieu de m'aider à aimer. OK. 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 Tourbillon de la vie. On tourne comme des toupies. On ne prend pas le temps. OK. Je prends ça. Tu n'es pas sûr? OK, j'affirme quelque chose. Moi, si je vous dis, ce qui m'empêche d'aimer les autres, c'est le péché. C'est clair, ça? Hein? On retourne autour du pot, là. Hein? Les petits manquements d'amour, les petits manques de ci, les petits manques de ça, là. On veut dire, c'est pas grave. Si je vous dis, c'est le péché qui m'empêche d'aimer les autres, est-ce que vous accordez un 10 sur 10 à ça? Bon. Pourquoi je pose autant de questions? Hein? Hé! Oups! Ça mérite-tu d'être dit tout fort, ça, là? Ah! C'est ça, si tu vas avoir les bonnes réponses, pose les bonnes questions. Ben oui. Oui.
Vous avez commencé en disant, si Dieu nous aime, on sait après ce que ça goûte. Oui, le péché.
Si tu ne sais pas c'est quoi l'amour de Dieu?
Si je ne sais pas c'est quoi aimer.
Oui.
Je ne sais pas c'est quoi.
Je
ne sais pas.
OK, tu veux dire de par rapport à ton passé, ton arrière-plan fait que tu n'as pas connu l'amour chez vous.
Manifester à travers nous,
oui.
Pour qu'on s'aime les uns les autres. Mm. Est-ce que c'est ça qu'à un moment donné, quand j'y goûte, c'est ça, aimer? Mais sinon, c'est quoi aimer? C'est que je peux lire un livre. Et quand j'y goûte, qu'est-ce qui fait qu'on y goûte? Ça fait plein de raisons.
Ouais. Ben, plein de raisons, mais qui ressemblent. Si on ne goûte pas, ben, ouais, ben, vas-y, je pense que je comprends ce que tu vas vouloir dire. OK. C'est parce que ce soir, je vais y aller avec la négative. Non, c'est parce que c'est important. Je comprends ce que tu veux en arriver à dire. On aurait pu aller du côté positif. Voici qu'est-ce que ça veut dire aimer. Qu'est-ce que tu devrais faire pour lui? Qu'est-ce que tu devrais faire pour lui? C'est un peu ça, dans ce sens-là. Parce que si je ne l'ai pas goûté en disant qu'est-ce que c'est, au moins tu peux peut-être le goûter si ça vient qu'à se faire. Mais si, je n'utilise pas cette procédure-là à soi. Je vais être négatif à soi. Et après, je vais être négatif, ça va, on va voir le versant. Je pense que j'y vais à l'inverse à soi. Et hey, toi, là. Bon. Garde. Mais, en fait, parce que je ne veux pas expliquer tout de suite qu'est-ce qu'on va dire plus tard, mais en réalité, ce à quoi je vais en arriver avec ça, c'est que ce qui fait que je ne goûterai pas ou je ne serai pas capable de communiquer l'amour, je vois que c'est des conséquences du péché, si tu veux, ou encore des péchés présents chez moi ou chez l'autre, dans ce sens-là. C'est ça que je vais en arriver. Et ce que je vais en arriver, c'est que on n'est pas conscient de nos péchés. On n'est pas conscient des péchés subtils. Manquer d'amour envers un frère, c'est un péché, envers une sœur aussi. Appelons-le comme on voudra, c'est ça. M'abstenir d'aider un frère, c'est un péché. Donc, autant des abstentions que des actes sont des péchés. Mais on est habitué dans un monde qu'on ne voit plus ça. On ne voit plus. C.S. Lewis disait une chose. C.S. Lewis, c'est un chrétien d'Angleterre. C'est un type qui a connu l'épreuve et qui a écrit plusieurs bouquins. Il dit, écoute bien. Il dit, il y a deux sortes de péchés. Il dit, il y a les péchés de la chair. Ils sont bien mauvais. Mais ils sont les moindres de tous. Les péchés de la chair, c'est les péchés extérieurs. Les grosses affaires. Là. Tu sais, les gros péchés qu'on dit, oh, moi, je ne pêche pas, gars, les grosses affaires. Tout ce qu'on voit de l'extérieur. Mais il dit, les pires jouissances sont toutes purement celles de l'esprit intérieur. Elles se caractérisent par le désir de mettre autrui dans son tort, de le contrôler, de patronner, de jouer les troubles fêtes avec les autres, de médire, de se complaire dans les plaisirs du pouvoir et de la haine. Et c'est pourquoi que souvent, dans nos milieux, on peut voir un prétendu vertueux, froid et imbu de lui-même, assisté au culte, qui est peut-être plus proche de l'enfer qu'une prostituée. Ça frappe, ça, là, ce qu'il vient de dire, là. Il dit qu'une personne, autrement dit, qui a un gros péché extérieur, une prostituée, est peut-être plus près du ciel que celui qui est avec qui est un religieux, qui est imbu de lui-même, mais qui a un paquet de péchés subtils qu'on voit plus. Puis ça n'a pas l'air des gros péchés, là. Puis ce type-là peut faire plus de tort. Et c'est plus difficile à nettoyer ça qu'un péché extérieur. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit aux pharisiens? Hein? Bande de vipères. Puis c'est qu'il a dit après la vipère? Comment? Oui? Bon. Il dit, vous nettoyez les grosses affaires extérieures pour bien paraître, mais en dedans, là, vous êtes pourris. Vous ne constatez pas que ce qui est en dedans, c'est ça qui vous sépare de Dieu. C'est pas les... Je dis pas que la prostituée, c'est parfait, puis continue, là. C'est pas ça que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de focusser sur ces grosses affaires-là, hein, le voleur, le meurtrier, fait que on banalise les petits péchés. Puis quand on banalise les petits péchés, on vient qu'on les voit plus, mais que on vient rempli de ça, puis il n'y a pas de place pour Dieu là-dedans. Puis là, ces petits péchés-là, les petits péchés véniels, appelons-les ceux qui ont un arrière-plan catholique, hein? Les péchés véniels, là. Ben, ils sont en moi, puis quand Dieu danse avec moi, je sens plus sa main dans le dos. Je sens plus son bras qui me dirige. Parce que je suis affecté par ça. Et que ça me rend insensible. Je veux voir Dieu dans ma vie, je le sens pas, je le vois pas, je le goûte pas. Je comprends. Qu'est-ce que tu as dit tantôt? Tu as dit que tu te mets plus toi que... Ben, c'est ça, hein? Ben, pas toi, toi, là, un autre. Là, mais c'est ça, tu voulais dire. Hein? On s'aime tellement qu'on n'ose pas s'examiner. Quand on arrive à la table du Seigneur, qu'on est un Corinthien, hey, avant de te présenter à la croix, examine-toi. L'idée ce soir, ce n'est pas là qu'on parte la tête, là, tout à manger de même, là, OK? Mais c'est de prendre conscience d'un élément de notre vie. On n'en parle pas souvent de ça, il me semble. Puis il me semble que c'est important. C'est ça qui vient nous déséquilibrer dans notre vie. C'est ça qui nous rend insensibles. Gardez bien. Pour dire pas qu'il y a deux sortes de péchés, mais qu'il y a des péchés extérieurs et qu'il y a des péchés plus internes, qui paraissent moins, hein? Quand j'ai des mauvaises pensées, il n'y a personne qui le sait, ça. Là. Puis quand je les garde puis je les alimente, il n'y a personne qui le sait ici. Mais ça a des conséquences. Si ça n'a pas des conséquences sur mon environnement immédiat, ça n'a avec ma relation avec Dieu. Lui, il sait. Hein? Lui, il ne peut pas me cacher. Hein? Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Quand je parle des péchés de l'esprit, c'est des péchés intérieurs que je peux facilement. Alors que les péchés de la chair, c'est des péchés plus de, appelons-les extérieurs. On s'entend? Mais les deux sont dommageables. C'est pas mieux l'un que l'autre, là. Hein? On n'approuve pas les péchés extérieurs, puis on dit, oups, les péchés intérieurs, là, c'est épouvantable. Regardez. Eh, mon ami. Ouais. Vous connaissez la parabole des fils prodigues? Ça vous dit quelque chose? Hein? Vous la connaissez par cœur? On a entendu parler de cette parabole-là un peu. Hein? Elle sert à tout et sauce. Hein? On s'en sert beaucoup. Je voudrais juste me servir de la seconde partie ce soir. On peut aller à Luc 15, 25. Je voudrais ce soir qu'on regarde, on fasse une étude des petits péchés. Pas habitué à ça, hein? Parce que souvent, je parle de la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, il a été miséricorde, il m'a sauvé, mais je suis pardonné pour mes péchés de demain, puis après-demain, jusqu'au temps que je crève. J'en conviens. C'est vrai. Mais ma chair m'amène à, malheureusement, je suis un saint qui pêche. Je ne suis pas un pécheur sanctifié, je suis un saint qui arrive de pécher. Et le péché vient faire obstacle à ma sensibilité, à cet amour-là de Dieu, à le réaliser suffisamment que, même en lisant les Écritures, si je suis dans le péché, comment Dieu peut-il me parler? Comment puis-je être sensible autant? On va pas en faire, là. On s'entend, là? Mais la sensibilité à cet amour-là. OK. Luc 15, vous connaissez la première partie, hein? jeune homme, il dit à son père, donne-moi mon pack-sac puis mon argent puis je m'en vais. Bon, OK, on s'entend? Mais quand il est revenu, là, il était bien accueilli par son père qui l'attendait puis il dit, viens-t'en, mon homme, hein, on va fêter puis la grosse fête. Et ça faisait du barda dans cette place-là. Il était content, le père, puis le fils s'embarque là-dedans. Sauf qu'il y en avait un qui était encore au champ puis qui s'en venait. Or, le fils aîné, verset 25, était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Ça va bien jusqu'à présent. Il appela un des serviteurs et lui demanda, c'est quoi qui se passe là? Le serviteur lui dit, ton père est de retour et parce qu'il l'a retrouvé, en parlant de son frère, en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voilà, il y a tant d'années que je te sers sans jamais transgresser tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère, qui voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Qu'est-ce que, chez le fils aîné, que retrouve-t-on comme péché? Allons-y, des péchés chez le fils. Quels sont les péchés du fils aîné? L'orgueil, OK. Dites-moi le verset que vous voyez quelque chose. OK. Il y a quelque chose de plus, je pense, là-dedans aussi. Tu avais quelque chose? Pardon? Manque d'amour. Dans quel verset tu vois qu'il manque d'amour? Dans tout ça. OK. OK. Oui, Gisèle. Pardon? La colère. OK. La colère qui l'amène à... Parce qu'on peut, monter le ton un petit peu, là, mais qu'est-ce qu'il fait dans sa colère? Hey, dis-moi, mon père, j'en faisais des affaires. Hein? Il se gonflait avec ce qu'il faisait. Hein? OK. Oui, Jacinthe? Ah, jaloux. T'es jaloux de l'autre? Non? Hey, tu as fait une fête, là. Moi, ça, j'ai travaillé comme un malade. Et lui, il est allé foirer, là. Mais qu'est-ce que c'est que tu y fais? Moi, ça fait 10 ans, à soir de mon fond, que je te sers. Puis tu m'as jamais rien donné. Jalousie. Mais en plus, qu'est-ce qu'il dit au père? Ah! Est-ce qu'il dansait avec le père? Oui, de... Il obéissait à la... Parce que t'es fils, il fallait qu'il le fasse. C'est ça. Hein? C'est un peu ça. Hein? C'est très légaliste. Là. Hein? Parce que c'est ça, ben, faut que je le fasse. Là. Il se soumettait. Est-ce que c'était volontaire du cœur? Pas sûr que le cœur était là, hein? Dans la façon. Il y a d'autres choses là-dedans. Fouillez. Ah, papa, t'es injuste. Il n'y a pas qu'amour. Il se sent obligé à esclave. OK. Ah, c'est ça. Comment ça se fait que tu l'aimes plus, lui? tu démontres des choses qui montrent que tu l'aimes plus que moi. Moi, je le mériterais. Non? Ben... Ben, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Il dit, tout est là. Autant pour toi que pour l'autre. Tout est là. Non? Pas ce qu'il dit? Mais ça, c'était fait au départ, ça, l'héritage. Et ils étaient tous les deux, c'était réglé au départ. Ils perdaient rien parce qu'ils étaient séparés. Ouais. Ah, non. Ce qui est donné, est donné. Mais il pouvait avoir peur que le père prenne une autre décision. Mais normalement, ce qui avait été donné et promis était fait. Oui, Catherine. Mm-hmm. Absolument, absolument. Il comprenait mal l'amour de son père. Ça, c'est une des choses. Hein? Ouais. Il comprenait mal. Effectivement. Ah ouais. Ouais. Mais il aurait dû le connaître à côté. Pas de communion, oui. S'il y avait eu l'amour dans son cœur, il aurait souffert de la séparation avec son frère. Bon, c'est pas écrit, mais juste avoir la réaction qu'il y a là, il n'avait pas l'air d'être bien content de le voir revenir, donc. Il n'avait pas eu grand-peine quand il avait foutu le camp. Puis peut-être qu'il était bien content d'avoir la moitié de l'héritage tout de suite, lui, ici. Oui.
Il n'a pas dit « mon frère est parti », il dit « ton fils est
parti ». OK. C'est lui qui... Oui, absolument. Le « ton », là, il est significatif. « Ton fils ». Hey, c'est mon frère. Tabarouette, de Caroline. C'est quelque chose, hein? Tout ça pour vous dire, le premier fils, lui... C'était quoi ces péchés? Mais là, il y en a eu deux, trois, là. Péché visible. Péché en dedans. Mais c'est curieux que le péché visible, la personne est revenue vers le Père, tandis que le péché invisible, il nous laisse là-dessus. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé que le fils est né. Hein? On n'a pas la suite. Hein? Mais on ne sait pas. Mais d'après vous, est-ce que le fils aîné était heureux ben? Est-ce qu'il y avait une grosse joie dans son cœur? Mais en pensant à cette parabole-là, hein, Jésus, quand il a fait cette parabole-là, c'est sûr qu'il s'adressait à un auditoire. Il y avait les pharisiens qui étaient là, puis il y avait des gens de mauvaise vie. Et bien sûr que sa parabole, les pharisiens se sont reconnus à quelque part, vous pensez pas? Non? Non, mais ouais, ils sont pas connus. Ça n'a pas changé grand-chose. Mais je ne suis pas sûr qu'ils ne se sont pas reconnus de par cette parabole-là quand ils parlaient des péchés intérieurs. En tout cas, s'ils ne se sont pas reconnus quand il les a parlé dans Matthieu, il y avait affaire à se faire reconnaître à quelque part. Hein? Nettoyer le dedans. Hein? Et c'était les péchés intérieurs que les pharisiens... Ils faisaient toutes les choses extérieures pour montrer leur amour pour Dieu, mais ils faisaient tout d'eux-mêmes. Et ils respectaient la loi, ça c'était extraordinaire. Mais leur loi aussi également, hein, la loi de Moïse et leur loi. Donc c'était quelque chose que, quand on regarde le fils aîné, moi je le situe, là je les ai séparés dans mon enfant, je me dis ça, ce sont des péchés intérieurs, mais qui démontrent un manque d'amour et qui n'attirent pas l'amour non plus. C'est un obstacle. La jalousie. Comment qu'on peut aimer avec la jalousie? Ouais. Je crois qu'on peut constater, en regardant cette parabole-là, qu'il y a des choses visibles, comme Gaétan disait, il y a des péchés visibles, puis il y a des péchés plus invisibles. Est-ce que dans nos assemblées ou dans nos relations, ce sont les péchés visibles qui sont les plus dommageables? C'est sûr, ça vient qu'à ressortir quelque part. OK. Sonia disait tantôt, oui, mais est-ce qu'on peut, tout dépendant si on a connu l'amour, comment qu'on l'a connu, comment l'identifier, comment savoir, comment l'expérimenter aussi. Pour certains, ça peut être plus difficile de l'expérimenter. Mais il y a une chose. S'il n'y a pas juste le péché qui empêche que les gens connaissent l'amour, c'est un méchant gros facteur important. C'est un méchant gros facteur important. Toute cette affaire-là que je viens de vous parler, c'est tout simplement, je voudrais qu'ensemble, on essaie de constater qu'il n'y a pas de petites choses qui ne sont pas importantes dans nos relations les uns avec les autres. Dieu veut que je le reflète dans mes relations avec les autres. Je vais juste vous demander quelque chose. Nommez-moi des obstacles. OK, regardez bien. Qu'est-ce qui vous empêche d'entrer en relation avec des gens dans l'Assemblée? Alors, pas dans l'Assemblée. On va dire avec des voisins pour dire quelque chose. Ça va être moins impliquant. Quelles sont les choses qui font que vous n'avez pas tendance à aller vers quelqu'un? La gêne. Hein? C'est-tu correct, ça? C'est-tu correct, ça? Non, non, c'est bien. Non, non. Non, non, c'est correct que tu le dises. Mais que ma relation avec les autres soit basée, il y a une face qui me va, ben qui me va pas. C'est ce qui se passe dans ma tête, dans mon cœur, là. Seigneur Jésus, lui, il m'a-tu regardé à la bête, lui, avant de venir? Hein? Il serait découragé dans le coin de son ciel, regarde cette affaire-là en bas, oui. Tu sais? Non, il dit Claire l'aime, donc on fait un spécial. Mais ce que je veux qu'on sorte là, c'est les obstacles à une bonne relation. Mais pour moi, je vous le dis d'avant, je vais appeler ça des péchés à la part du temps. Mais là, vous allez m'en sortir, là, c'est à vous autres la parole là. Pardon? On n'aime pas les différences. Donc, ça, j'aime pas les différences, c'est quoi mon affaire là, qui se passe dans ma tête que j'aime pas les différences? OK. Donc, je fais quoi? On appelle ça comment? T'écartes les autres. Comment t'appelles ça? Faire des clans, c'est du favor. C'est de l'acception de personne. Ça, c'est divin, ça. Hein? Mais, ça, c'est du péché, ça. Faire exception des personnes. Il y en a d'autres. Hey, là, j'en ai écrit deux pages de ça, moi, là. Hein? Oui, Paul. On peut avoir peur que ça nous coûte quelque chose. OK, mon égoïsme. Ouais, on peut. OK, donc, explique-moi un petit peu plus. Oui. Un engagement, quoi, ou un... Un engagement, ou la voisine, là, les deux voisines, Ouais. Correct. Ouais. T'es mieux de pas y aller au cas qu'elle te demande quelque chose. Puis qu'il sera obligé de dire tu peux pas. Mais c'est correct, ça. Tu sais? Oui, Claire. OK. Tu entreprends une conversation avec quelqu'un.
Ouais.
Puis là, il parle juste de lui tout le temps.
Ouais,
il s'intéresse pas à toi, là. Toi, t'es un ramasse-parole de l'autre, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ouais. Tu fais un heureux puis un malheureux. Mais il demeure quand même. OK. Il y a des fois où ça peut se faire, mais lorsque c'est continuellement de cette façon-là, la personne là qui est tout le temps imbue de parler d'elle-même et d'elle-même, les gens vont la fuir. Elle ne goûtera pas l'amour. Donc, faut réaliser que on peut être nous-mêmes notre obstacle à être aimé aussi là. Hein? Vous en avez d'autres certains? Allez, il y en a une tonne. Oui. OK. Une relation intéressée, hein? OK, d'aller chercher. OK, d'aller chercher quelque chose. Oui. Oui, oui, oui.
Tu vois ce que ton voisin fait, ça ne t'intéresse pas vraiment l'entrepreneuriat.
Absolument. Mm-hmm. OK. OK. Moi, la question que je me pose souvent à ce moment-là, et je trouve ça cruel à mon égard, Dieu l'aimes-tu? Me dit oui, il est mort pour lui aussi. Mais je comprends. Ça nous repousse. Ça nous repousse. Ensuite, vous en avez d'autres. OK, est-ce qu'on devra... Non, non, OK. Mais l'idée de ne pas partir dans la rue, là, l'idée que j'amène ce soir, c'est pas de partir sur la rue, là, puis d'aller voir tout le monde, j'ai jamais parlé encore, puis là, je rentre en relation avec vous, Dieu vous aime, moi, ici. C'est pas l'idée. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a des obstacles dans ma vie par rapport, c'est sûr, notre assemblée, même chez vous, ton épouse, tes enfants, tout ça, il y a des choses, il y a là aussi des obstacles. Là. On est égoïste, hein, quelque part, puis notre chair, elle nous aime bien. Fait que, on a des obstacles chez nous, mais ça va aussi chez le voisin, ça. Ça va partout. Si je suis pas capable d'aimer dans mon assemblée, comment on va faire pour aimer le dehors? Dieu il a pas dit, là, aimez juste dans votre assemblée, là, puis tapotez-vous les épaules entre vous autres, puis haïssez le dehors. Et c'est pas ça. Dieu aime tout. Aime tout. Pas le péché, mais je veux dire, il aime le pécheur. Et si je ne réalise pas que Dieu, il m'a aimé moi aussi en tant que pécheur, que je réalise pas qu'il nous aime en tant qu'assemblée, qu'il nous aime, et si je réalise pas ça, qu'est-ce qui fait que je suis pas capable d'aimer comme il m'aime? Alors qu'il a dit qu'il habitait en moi, il a dit qu'il était là. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas capable d'aimer? C'est parce que les obstacles, ce n'est pas lui. C'est moi l'obstacle, à quelque part. Et moi, je crois que c'est parce que je danse avec d'autres partenaires que Dieu. Je danse avec d'autres partenaires. Je peux vous en donner des partenaires. La jalousie, l'envie, quelqu'un qui ça va bien. On a une tendance souvent à être jaloux de quelqu'un dans sa réussite. Surtout s'il réussit plus que nous autres. On a une tendance. Je dis pas qu'avoir la pensée et y rester, c'est deux, là. Je veux dire de pas avoir des pensées, mais de rester avec. d'être jaloux, à en faire des actions. Désirer avoir le don des autres. Quelqu'un qui a une fonction dans l'Église, et moi, j'aimerais ça. Tu peux en être malade à vouloir aimer, peut-être avoir ce don-là. Ça fait spirituel, ça, là. Hein? Jalouser au travail. Avec les collègues au travail. Jalouser quelqu'un qui a une fonction supérieure à nous. Jalouser quelqu'un qui ça a l'air à bien aller dans sa vie, puis moi, ça va mal. À m'en rendre malade. Je vais vous en donner d'autres. Attends. L'amertume. L'amertume. Ça fait du malaise, ça, là. Mais dans l'Assemblée, on n'en a pas, nous autres. Ça, c'est juste pour les autres. Parce que nous autres, on est des saints qui, de temps en temps, on pêche. Mais pas ce péché-là, l'amertume. On n'en veut pas les uns les autres. Ah, il a dit quelque chose. J'évite l'autre. Ah, c'est pas de la grosse amertume, mais il me fait pas face. Ah, ben, il a fait quelque chose. J'ai entendu quelqu'un qui a dit que quelqu'un que lui a dit. Et là, j'y en veux, je suis même pas allé vérifier. Mais là, j'y en veux pas trop fort pour pas que ce soit le péché, mais j'y en veux juste un petit peu pour pas trop que ça paraisse. Mais s'il rentre dans cette allée-là, moi, je m'en ai ma cire là. Ça, c'est déguisé, là. Mais c'est subtil, ça. J'évite l'autre, je me refroidis à son égard. Quelqu'un a dit une parole par mégarde qui est venue me frapper. Peut-être une petite affaire, peut-être une grosse affaire. Au lieu de, en tant qu'enfant de Dieu, quand on aime, on essaie d'aller voir la personne pour régler quelque chose, on le garde. Là, je garde ça en dedans. Là, le petit mouton grossit, puis le petit mouton grossit. Ça, c'est de la rancune, c'est du refus de tout simplement d'aller voir l'autre pour pardonner. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit, si tu arrives devant l'autel à faire une offrande à Dieu, si tu as quelque chose à quelque part, va le régler. Mais c'est pas si naturel que ça, frères et sœurs. Savez-vous ce qui je me base pour dire ça? Sur moi. Pauvre moi, des fois. Ah, les péchés subtils, l'apitoiement. Pas un péché, l'apitoiement? Être triste, c'est correct. Pleurer, c'est correct. Avoir un temps dans le creux de vague, c'est correct. Mais s'apitoyer, par exemple, pauvre de moi, hein, je fais si pitié. Mais c'est un péché de s'apitoyer. Puis tu vois pas Dieu. Tu vois pas Dieu, ça t'empêche. Parce que t'as les yeux rivés sur toi, sur ta peine, sur ta douleur. Et là, je veux pas nier aucune douleur, pour aucune peine, pour aucune épreuve. C'est pas ça l'idée. Pauvre de moi. Non, un autre. On a le temps. Ouais, là, on fait la liste des péchés, là. Fait que là, prenez votre quatre peines note. Ah, ça me rappelle. Quand j'étais petit bonhomme, on allait à confesse une fois par mois. Puis là, la maîtresse en avant sur son pupitre, elle nous faisait une liste. Elle nous lisait une liste de péchés pour nous aider à penser. Puis là, il fallait aller au confessionnal, toute la gang. Le vendredi, on partait à l'église, c'était pas loin de l'école. Là, on allait, puis là, on passait tout dans le confessionnal. Puis là, on disait notre liste. Ben, tu répétais ce que là, tu dis, idem. La même chose que mon chum, on était ensemble. Non, mais, moi, je les additionnais. Moi, j'arrivais pour faire des chiffrons. J'avais pas la notion dans ce temps-là qu'il fallait dire un péché. Et puis là, s'il m'en manquait, mais là, des fois des mauvais mots, là, je les répétais. Ting, 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 jusqu'au temps qu'il en avait 10. Fait que là, quand j'arrivais en confessionnal, là, ça arrivait tous les mêmes chiffres. Jusqu'à tel cœur. Bon, OK, ça, c'est une vieille histoire. Mais là, à soi, c'est pas ça que je veux vous fassiez, là. Mais c'est de nous rendre sensibles que des fois, des moindres petits germes peuvent briser des relations, peuvent empêcher d'avoir des bonnes relations. Et quand ces germes-là m'empêchent d'avoir une bonne relation avec mon frère, dites-vous qu'elle vous empêche d'avoir une bonne relation avec Dieu. Et qu'à quelque part, vous ne sentez pas sa main dans le dos. Puis là, on dit, Dieu, il est loin, ça fait longtemps qu'il ne l'a pas entendu. Comprends, ça fait longtemps qu'il ne l'a pas entendu. Hein? Manque d'intégrité. Ouf. Hypocrite. Hein? C'est un mot que Dieu a dit. Hein? Jésus a dit ça. Donc, une attitude différente quand je suis en avant puis quand je suis en arrière. Je change ma conversation un peu quand je parle à Sonia, mais quand je parle à Gisèle, elle modifie un peu. Parce que c'est à Gisèle que je parle, c'est pas à Sonia. Donc, je modifie mon discours. Ça n'arrive pas, ça. Les visages à deux faces, tu connais pas ça, pas ça? Hmm? Oui? Pas de nom, s'il vous plaît. Quelqu'un, on parle d'honnêteté, d'intégrité. Quelqu'un que lorsqu'on a quelque chose, va acheter la paix à n'importe quel prix. Au prix de la vérité. Vous savez, des fois, là, on peut passer pour des bons chrétiens. Ah, ne me fâche pas, je vais le laisser faire, il a gagné, c'est correct. Mais il a gagné quoi? On ne peut pas acheter la paix à n'importe quel prix, ça n'a pas de bon sens. Au nom de la vérité, je ne parle pas de faire des chicanes là, parce que je vais avoir raison, mais on ne peut acheter la paix à n'importe quel prix. Je connais des personnes qui ont acheté la paix à n'importe quel prix, c'était le désastre, ça ne marche pas. Tu te fais passer par-dessus le dos, il n'y a aucun respect là-dedans. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Acheter la paix à n'importe quel prix, il n'y a pas d'amour là-dedans. Ne pas dire la vérité dans l'amour, c'est ça. À quelque part, je pense que la vérité doit être dite. Des fois, c'est dur. Au prix d'une relation, des fois. Tu as peur de perdre la relation. C'est pour ça que tu achètes la paix, des fois, à n'importe quel prix. Tu as peur de perdre la relation. Tu dis, si qui dit ça, il ne m'aimera plus. Ah ben, il va me lâcher. Ah ben... Mais mon ami, quand on embarque là-dedans, jusqu'à quand est-ce qu'on arrête, là? Et t'es mieux de t'approcher avec amour. OK, avec amour. C'est ça, l'amour de Dieu. C'est d'approcher pour dire la vérité. Dieu m'a approché un jour pour me dire la vérité. Il m'a dit, je suis un pécheur perdu. Mais ça m'a été dit avec amour. Et ça, on peut gagner des cœurs avec ça. Ah, on est des belles. Ah, il me forcé. Oh, pas je vais dire. Juger les autres. Tu vois quelque chose d'extérieur, puis tac. Étiqueter. Juger. Facile, ça. C'est pas spontané pour vous autres de faire ça. Il me semble que ça nous vient naturellement. L'idée, c'est pas que ça vienne pas, c'est que ça reste pas. On s'entend? Et ça, je pense qu'on doit être à l'affût de ça. Et c'est très subtil, ça. Ça commence par une petite critique. Hey, on y va pas souvent face, hein? Là, tu portes un petit jugement, tu sais. Ah ouais, c'est un petit bout qui n'est pas venu. Ouais. Là, tu commences à juger sur des choses extérieures, alors que tu connais pas ce que l'autre vient dedans. Et souvent, nos jugements, c'est des choses extérieures qu'on fait. Ça nous amène à étiqueter, puis des fois, on ajoute la condamnation avec ça. Une fois qu'on a jugé, c'est facile de tourner puis de condamner. Là, je ne parle plus, puis c'est un ci, puis c'est un ci, puis c'est un ça. Pas juste à l'extérieur, ça peut nous grenouiller, ça, en dedans. Et à ce moment-là, ça peut nous amener, lorsqu'on porte un jugement sur quelqu'un, avec une attitude de mépris. On ne dit pas officiellement « je te méprise », mais dans notre façon d'être, ça transpire, ça sent le mépris, ça sent l'arrogance des fois. Attitude hautaine. OK. Hop là. Ferme ta petite boîte là. Ouvre une autre boîte. Ah non, on ne jugera pas pour ça. OK, de toute façon, moi, c'est ça, je ferme les livres à soir. Là. Ouais, on va fermer les livres avec le dernier. Vouloir tout contrôler. Ça, c'est contrôlé dans mon environnement, si c'était seulement ça. C'est de contrôler en haut aussi. Très subtil. Je sais ce que je fais. Très facile de contrôler, non? On peut contrôler les conversations. On n'écoute pas l'autre. Hein? C'est moi qui prends la pole position. Je peux contrôler les personnes, je peux contrôler les circonstances, ou du moins je peux penser le faire. Mais ça vient très rapide qu'on veut contrôler nos vies. C'est ça qui est notre péché. Hein? Le péché d'Adam et Ève, c'est qu'ils ont voulu contrôler, ils ont voulu prendre la pole position, ils ont voulu décider sans Dieu. Puis quand je parle de contrôler ici, c'est décider sans Dieu. Puis décider pour moi toujours. On vient toujours à l'égoïsme sur le péché universel. Mais contrôler tout le temps, tout le temps. Acception des personnes, on en a parlé tantôt. Favoritisme selon les rangs sociaux. Ça, on est moins... Ici, nous autres, c'est correct. Tout le monde peut rentrer dans l'église. On accepte tout le monde, c'est correct. Donc, on n'a pas ce péché-là. On peut faire exception selon les convictions des gens, par exemple. Lui, il croit ça. Lui, il croit pas ça. Puis là, je sépare mon groupe. Hein? Je fais exception. On les sépare, les gens. Puis si on les sépare pas par conviction, on va les séparer par péché. Les gros péchés sont d'un bord, les petits péchés sont de l'autre bord. On s'occupe des gros péchés, puis les petits péchés, c'est pas grave, on les laisse s'infiltrer. C'est épouvantable, hein, ce que je vous dis là ce soir. Hein? Pensez-vous être pépé en partant d'ici? Mais je me dis une chose, et je termine avec ça. Si on voit Dieu comme étant un Dieu du ciel qui vient bonassement dans nos vies, on est dans l'erreur. On a un Dieu de grâce, mais on n'a pas un Dieu bonasse. On a un Dieu qui nous aime, mais il n'aime pas le péché. Dieu nous offre l'opportunité, à partir du moment qu'on est sauvé, de nous habiter pleinement et de prendre le contrôle de notre chair. La chair fait qu'on a des vieux modes de pensée et qu'on pense comme Adam et Ève, avec tout ce que les conséquences du péché. On a cette façon-là de penser dans la tête. Là. La nature, la vieille nature a été crucifiée, mais la façon de penser, elle reste là, avec la chair. Et Dieu dit, je suis capable, si tu me laisses la place, si tu me laisses t'aimer, si tu réalises tout l'amour que j'ai eu pour toi, je mets toute ma puissance aussi en toi. Vous lirez Éphésiens. L'amour a quatre dimensions, là, la plénitude de Dieu. C'est de réaliser tout ce qu'il a fait, puis réaliser comment il m'aime. Et c'est ça qui se peut être mon carburant. Et Dieu, il dit, arrête, essaye pas de le faire toi-même, tu vas rater ton coup. Essaye pas d'aimer tout seul, t'es voué à l'échec. Parce que tout le monde est haïssable jusqu'à un certain point. Donc, si tu veux aimer comme j'aime, laisse-moi aimer à travers toi. Puis ça, c'est pas philosophique, là, puis c'est pas une patte de lapin, puis c'est pas... Ah non! Les Écritures le disent. Il dit qu'il habite en moi, j'y crois, mais j'y crois pas. Je dois m'approprier ces versets-là qui me disent qu'il habite en moi et qu'il a mis toute la puissance en moi. L'Esprit de Dieu en vous, y croyez-vous? Ça sert-il à quelque chose de temps en temps? Ah ben si, ça sert quand je suis mal pris. Voyez-vous, c'est là présent, ça. Et on doit vivre et carburer de ça. Et c'est ça que Dieu nous promet dans sa parole. Il dit, tous ces grenouillages-là là, qu'on peut avoir, là, c'est du péché. Arrêtez de vous cacher. Là. C'est des petites affaires, c'est des petits manques d'amour. Non, non, non. C'est du péché et c'est ça qui est l'obstacle. C'est comme ça que le monde a commencé. Et vous êtes encore, vous avez encore ça qui vous entoure, ça vous environne. Maintenant, il dit, avec moi? Non, pas avec moi. Il dit, moi en vous. Comme Paul a dit, il dit, Christ, c'est ma vie. Il dit, moi en vous, là, je suis majoritaire. Il dit, je suis majoritaire quand je suis en vous. Puis il dit, j'ai la puissance de vous amener à refléter mon amour. Mais il dit, soyez sensibles. Je veux danser avec vous. Ne dansez pas avec ces péchés-là. Dansez avec moi. Et laissez-vous guider et vous allez sentir ma présence. Pas trop découragé. La prochaine fois, ce sera la partie numéro 2, l'encouragement. D'accord? Notre Dieu, notre Père, un court instant encore. Ô Père, combien on a besoin de toi. Et ô Père, on a besoin de nous abandonner à toi. On a besoin que tu sois là et que tu nous fasses goûter, notre Dieu, que tu nous fasses sentir que tu es là. On implore ta toute puissance, notre Dieu, on implore ton amour. On te demande de nous infiltrer, de nous posséder, notre Dieu. Et Père, puisses-tu occuper la place dans nos cœurs qui te revient. Ô Père, même si cette vieille nature a été crucifiée à la croix avec Jésus, il demeure qu'on a la chair qui est autour de nous, qui nos vieilles façons de penser qui sont tortueuses. Et dans ta grâce, notre Dieu, on te demande de nous aider à nourrir la nouvelle nature en nous. Et notre Dieu, encore une fois, que ta parole puisse marquer nos cœurs. Sois loué, notre Père, et merci encore pour ton amour. Amen.